Bonjour tout le monde.
Comme d'habitude, heureux d'être là parmi vous. Alors la thématique d'aujourd'hui est très particulière parce qu'elle s'inscrit dans le prolongement d'à peu près tout ce qu'on a vu depuis le début. On a vu la modernité, la postmodernité, la prémodernité, on a abordé des thématiques philosophiques avec Yvonne Roche, avec Spinoza. Et aujourd'hui, on va parler des trois principales théories politiques du monde moderne ou des temps modernes, à savoir le libéralisme, le fascisme et le communisme. Alors on peut parler d'idéologie ou de théorie politique. Car aujourd'hui, il y a un usage très dévoyé qui est fait de ces termes-là, que les gens utilisent à tort et à travers, sans pouvoir en définir la substance. D'où le fait qu'aujourd'hui, vous écoutez à la télé beaucoup d'experts parler de libéralisme, d'ultralibéralisme, de néolibéralisme, avec énormément d'approximations, ou encore en parlant de fascisme, crypto-fascisme, etc. Ou néo-marxisme, marxisme culturel. Donc aujourd'hui, on va tenter de mettre les points sur les i et de définir les fondements de chacune de ces doctrines-là. Alors, j'ai 20 minutes pour parler de chacune des doctrines. Donc vous imaginez que ça va être un peu compliqué. Donc ne vous attendez pas à une lecture exhaustive, d'où le fait que je vais évacuer d'emblée toute la dimension historique. Je vais la parcourir rapidement, mais ce n'est pas le cœur de notre propos. Le cœur, c'est quelle est la cohérence interne à chacune de ces idéologies. Alors, la première, historiquement, à avoir émergé est le libéralisme. Alors, le libéralisme puise ses fondements dans deux sources principales. La première est d'ordre philosophique, la deuxième est d'ordre religieux. Du point de vue philosophique, on peut remonter à la Renaissance. Puisque la période de la Renaissance, donc là on est début 15e siècle, fin 14e, début 15e siècle, on assiste à un basculement intellectuel où l'on quitte graduellement le monde du sacré, en tout cas dans le monde occidental, puisque je rappelle que les trois théories concernent en premier lieu le monde occidental, elles sont nées en Occident, et puis par effet de diffusion, elles sont étendues à toute la planète. Donc dans le contexte du monde occidental, la Renaissance a été une rupture avec le monde du sacré à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'art, les canons esthétiques vont changer. Ce qui prédominait durant tout le Moyen-Âge, c'était un canon esthétique religieux, c'était l'art sacré, les enluminures, la calligraphie, les dessins, les fresques religieuses qui retracent la vie des saints, du Christ, etc. Donc on va basculer vers un monde plutôt païen du point de vue esthétique. C'est-à-dire qu'on va réhabiliter le canon esthétique gréco-romain. On le retrouve avec Léonard de Vinci, on le retrouve avec Michel-Ange, on le retrouve avec tous les grands artistes de la Renaissance italienne, parce qu'elle est italienne au début, avant d'être européenne. Et même les thématiques chrétiennes vont être représentées avec un canon esthétique gréco-romain. C'est-à-dire que le dieu chrétien, qui normalement n'est pas représentable, va être représenté dans les fresques à l'image d'un dieu grec, avec une barbe, avec un corps musclé. Et on le retrouve dans la chapelle Sixtine et dans différents monuments, notamment en Italie, mais pas que. Donc on est dans cette rupture-là. Au niveau philosophique, c'est la même chose. On va avoir les débuts de ce qui va devenir l'humanisme. C'est-à-dire l'homme redevient le centre de l'existence. Ce n'est plus Dieu ou l'Église qui est au centre du village, comme on dit, mais c'est l'homme qui redevient central. Et cette réconciliation avec le corps et cette volonté de redécouvrir le corps humain, comme j'ai dit, on la retrouve au niveau de l'esthétique, mais on la retrouve également au niveau scientifique, avec le développement de l'anatomie. Notamment, on va commencer à disséquer des cadavres. Et même pour des raisons esthétiques, il y a des artistes comme Léonard de Vinci ou d'autres qui achetaient des cadavres de SDF morts ou de mendiants morts pour pouvoir les disséquer et voir comment le corps fonctionne. Donc on est entré vraiment dans une nouvelle perspective, dans un nouveau rapport au monde, un rapport qui est empirique, qui est scientifique et qui est plutôt païen du point de vue esthétique. Et ça va donner par la suite l'humanisme, puis par la suite la philosophie des Lumières. Et donc cette centralité de l'homme et cette marginalisation du sacré va rendre possible, quelques siècles plus tard, la possibilité de penser le libéralisme. C'est-à-dire une société sécularisée, qui n'est pas fondée sur le religieux, mais qui est fondée sur la rationalité. Une société qui n'est pas fondée sur le collectif, mais qui est fondée sur l'individu. Une société où le prince n'a pas tous les pouvoirs au nom de Dieu, mais plutôt une société démocratique avec une rotation du pouvoir entre les élites, etc. Donc, sans le prérequis de cette rupture qui est antérieure au libéralisme, on n'aurait pas pu avoir le libéralisme du point de vue philosophique. Après, on a également Descartes et toute la question du doute, de la critique, de toute cette démarche-là. Alors, au niveau religieux, il y a un autre phénomène qui est concomitant à la Renaissance, c'est la réforme religieuse. Alors, quand je dis réforme, vous pensez immédiatement au protestantisme, Calvin, Luther, mais il y a eu des bouillonnements au sein même du monde chrétien catholique bien avant Calvin. Déjà à l'époque de la Renaissance, il y avait une tentative de réformer en profondeur l'Église, notamment à travers la révolte de Savonarole à Florence. Savonarole était un prêtre catholique. Il voyait la décadence de l'Église catholique, la corruption qui s'est installée, que au fait les papes, je pense que tout le monde a vu la série Borgia, alors si vous n'avez pas vu, vous pouvez la voir, comme effectivement on pouvait acheter le trône de Saint-Pierre, on pouvait acheter le poste du pape, globalement, en corrompant les cardinaux. Il y avait des indulgences, c'est-à-dire vous pouviez acheter le paradis pour un proche décédé, donc on payait pour avoir des indulgences, pour pardonner les péchés. Et donc c'était devenu une entreprise lucrative, et on voyait que l'or de toute l'Europe était drainé vers l'Église catholique. En plus, il y avait des inventions de fausses reliques. Chaque monastère s'inventait une relique qu'il attribuait au Christ pour devenir un lieu de pèlerinage. Donc tout cela a amené Savonarole à se révolter contre cette luxure, contre cette hubris. Bon, il a très mal fini, il a fini sur le bûcher. Mais il a pris le pouvoir à Florence pendant quelques années en tentant de mettre en place une forme de république chrétienne authentique, pure, rigoriste, en détruisant des œuvres d'art, en interdisant le maquillage aux femmes, vraiment une forme de wahhabisme catholique avant l'heure. Mais il a préparé le terrain. C'est-à-dire que ça a été un premier coup porté à l'Église catholique, qu'il était possible au cœur même de l'Église d'entamer une réforme. Alors, en quoi le protestantisme a préparé le terrain au même titre que la philosophie à l'émergence du libéralisme, c'est qu'au fond, alors le protestantisme est beaucoup de choses, mais il est entre autres la volonté de supprimer toute médiation entre le croyant et Dieu. Parce que dans le contexte catholique, notamment médiéval, aujourd'hui ça l'est beaucoup moins, on ne peut pas avoir un lien direct avec Dieu, on est obligé de passer par la hiérarchie de l'Église. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lire la Bible et l'interpréter soi-même, on est obligé de passer par le prêtre, qui, lui, nous donne l'interprétation parfaite. En plus, on peut y ajouter l'infaillibilité du pape dans des questions théologiques. Et donc, il y a entre moi et Dieu une multitude de strates à l'image de la société féodale, où entre moi et le roi, ou entre moi et le niveau national, il y a toute la structure féodale, avec les comtes, les ducs, les archiducs, etc. Et donc, on va le voir dans le marxisme, c'est qu'au fait, le mode d'organisation des idées n'est que le reflet du mode d'organisation sociale et des rapports de force. Donc le protestantisme, en supprimant ces médiations, ouvre un boulevard à l'émergence d'une idéologie qui va devenir le libéralisme, où effectivement on va supprimer les médiations, on fait émerger la rationalité, parce que le protestantisme se revendiquait également d'une certaine rationalité, parce qu'il y a eu une volonté de démythologiser le christianisme, c'est-à-dire de nettoyer le christianisme de tous les mythes. Là, je parle en récupérant le vocabulaire des protestants, je ne dis pas que c'est vrai. De détruire tous les mythes, toute la mythologie que les catholiques entretenaient. Et d'ailleurs, on le voit à travers toutes les violences opérées par les protestants dans les églises et les monastères, où ils ont cassé les icônes, les statues de la Vierge Marie, les figures du Christ, littéralement en les détruisant, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'iconoclasme. Il y a l'iconophilie, c'est-à-dire le fait d'admettre que les icônes du Christ peuvent être une médiation entre moi et Dieu, un canal, et l'iconoclasme, c'est une doctrine selon laquelle on ne peut pas représenter ni Dieu, ni la Vierge Marie, ni le Christ. Ça va être la démarche du protestantisme. Et il y aura même des théologiens protestants, comme Joseph Bultmann, qui va entamer un vrai travail de rationalisation du christianisme pour le rendre conforme à la modernité de l'époque. C'est-à-dire métaphoriser tous les miracles. En fait, les miracles, c'est juste des métaphores, c'est des symboles, il ne faut pas les prendre à la lettre. Il va euphémiser certains aspects surnaturels des Écritures en tentant de séculariser le christianisme. Que veut dire séculariser? C'est rendre conforme au siècle, c'est-à-dire rendre conforme à l'époque. C'est-à-dire adapter la religion, la conception de la religion à l'époque contemporaine, c'est-à-dire au monde moderne, parce que ça se passe dans le contexte de la modernité. Pareil, la réhabilitation de l'Ancien Testament par les protestants comme étant un texte normatif, parce que je rappelle que pour les catholiques, seuls les évangiles, les quatre évangiles sont normatifs, l'Ancien Testament a été dépassé et parachevée par les évangiles, eh bien, les protestants vont réhabiliter l'Ancien Testament et dans la question du pré-intérêt, qui était interdit par les catholiques et qui va être réhabilité par les protestants, ce qui va enclencher une accélération du développement des forces productives, d'où le fait que certains, comme Weber et d'autres sociologues, considèrent que le protestantisme est l'esprit du capitalisme. C'est ce qui, quelque part, a rendu possible, a animé le développement du capitalisme. Donc on a ces deux sources qui ont rendu possible l'émergence du libéralisme. Alors, le libéralisme en tant que tel, aujourd'hui, est souvent réduit à la seule dimension économique. Quand on dit libéral, on pense à la liberté de marché, de propriété privée, l'offre et la demande, moins d'État. C'est vrai, mais le libéralisme, avant d'être une doctrine économique, c'est avant tout une doctrine politique et juridique. Et là, on a plusieurs auteurs qui vont diverger quant à la manière de penser la question de la liberté. Parce que dans le mot libéralisme, il y a le mot liberté, donc il est au cœur de cette doctrine-là. Et on a trois manières, à l'origine du libéralisme, il y a trois manières de penser la nature humaine. Trois anthropologies, on dira. Il y a une anthropologie pessimiste, celle de Thomas Hobbes, on en a déjà parlé, avec son livre « Le Léviathan ». Pourquoi ? Parce qu'il part de l'idée que l'homme à l'état sauvage, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'État, quand il n'y a pas de police, quand il n'y a pas d'armée, que l'homme à l'état sauvage est un loup pour l'homme, donc l'homme est mauvais par nature, et il n'y a qu'un État fort qui arrive à obtenir le monopole de la violence, qui est capable de domestiquer les individus. C'est du libéralisme, parce qu'il y a des individus. Chez Hobbes, ce n'est pas la question du corps collectif, ce n'est pas le féodalisme, c'est un État et des citoyens individuels. Mais il se trouve qu'ils sont mauvais de par leur nature, et donc il faut un État fort pour les domestiquer. Et donc, le transfert de la capacité de violence des citoyens vers cette entité qu'on va appeler État se fait de manière contractuelle, volontaire, d'où le fait que l'on est dans le libéralisme. L'autre lecture, beaucoup plus tardive, est celle de Jean-Jacques Rousseau, qui est porteur d'une anthropologie optimiste de la nature humaine. C'est l'idée du bon sauvage. Parce qu'à l'état de nature, l'homme est bon par nature. Et c'est la société, l'État, le politique, l'économie qui le corrompt et le pervertit. Et donc, si jamais on repense l'État d'une autre manière, l'éducation d'une autre manière, eh bien on peut l'aider à préserver cette bonté qu'il a initialement en lui. Et puis il y a une troisième lecture, celle de John Locke, qui est en quelque sorte le père fondateur du libéralisme anglais, pour qui l'homme est une page blanche, c'est-à-dire une forme d'anthropologie neutre. Est une page blanche, il n'est ni bon ni mauvais, tout dépend de ce qu'on va en faire. Alors s'il habite, ou s'il est éduqué dans une société où les lois sont écrites par des loups, bien effectivement il deviendra un loup pour son prochain. Mais si elles sont écrites par un État éclairé, par un État qui encourage l'éducation, le rayonnement, la culture, le savoir, et bien il deviendra rayonnant, cultivé, éduqué, etc. Donc là, on est dans une logique de page blanche. Et l'État, pour Locke, contrairement à Hobbes, est nécessaire dans une logique transitoire. C'est-à-dire que l'on a des citoyens globalement mauvais. Locke ne le nie pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été corrompus, etc., par la société. Mais pour leur permettre d'accéder à un statut de citoyen éclairé, ben il faut une éducation, un rayonnement, et seul l'État peut permettre quelque part d'accélérer l'histoire et de créer une nouvelle génération de citoyens éduqués. Mais une fois la mission de l'État achevée, c'est-à-dire celle de produire une nouvelle génération de citoyens éduqués, cultivés, avec des lois bonnes, etc., normalement l'État devra graduellement disparaître au profit de ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'État, on est bon, on est gentil, on respecte la loi, pas besoin de police, pas besoin d'etc. Donc on a ces trois écoles, trois inspirations premières du libéralisme. Ça c'est au niveau politique de l'État, du citoyen, et même anthropologique. Au niveau juridique, il y a globalement un dénominateur commun à tous les libéralismes, c'est la question des droits de l'homme. Alors des droits de l'homme et du citoyen. Pour la simple raison que l'ordre des mots n'est pas un ordre anodin. On n'a pas dit les droits du citoyen et de l'homme, mais les droits de l'homme et du citoyen. C'est que l'homme, en tant que figure indépendante de toute appartenance nationale, religieuse, raciale, etc., a une primauté par rapport au citoyen. C'est-à-dire que l'homme, c'est l'universel, On est homme, peu importe notre nationalité, homme, femme, c'est-à-dire homme au sens générique du terme. On est homme, peu importe notre nationalité, donc là, c'est l'universel. Mais on est citoyen, ça relève du particulier. On n'est pas citoyen du monde, ça n'existe pas, ça c'est une bêtise, intellectuellement parlant. On est citoyen du Maroc, de l'Espagne, de la Russie, du Mexique, des États-Unis. Donc au fait, cet ordre sémantique implique une primauté de l'universel sur le particulier. Donc il y a un respect du particulier puisqu'il est évoqué, mais il arrive en second, derrière l'universel. Ce qui nous amène à l'idée que le libéralisme ne se revendique pas comme une idéologie régionale ou continentale ou nationale, mais comme une idéologie à vocation universelle. C'est-à-dire une idéologie pour l'humanité, pour toute la planète. Donc c'est une forme de messianisme. Donc avant de passer aux deux autres idéologies, on va récapituler autour de trois catégories qui vont être le fil conducteur pour les autres également. Dès que vous entendez le mot idéologie, peu importe laquelle, parce qu'il y a d'autres idéologies, il n'y a pas que les trois. Les trois, c'est les trois qui ont dominé politiquement et historiquement. Mais il y a d'autres marginales comme l'anarchisme, le libertarianisme et d'autres. Posez-vous toujours trois questions. Quel est le sujet dans telle idéologie? Quel est ou qui est le sujet? C'est-à-dire, quel est le moteur de l'histoire d'après cette idéologie? Dans le cas du libéralisme, c'est l'individu. L'individu rationnel, doué d'une volonté et d'un libre arbitre, est le moteur de l'histoire. C'est lui qui fait l'histoire. C'est lui qui crée l'histoire. Puisqu'il est libre, il est rationnel, il est porteur de la raison. Et donc, le sujet de la modernité libérale, c'est l'individu. Deuxième question, posez-vous la question de savoir est-ce que telle idéologie relève de l'universel ou du particulier. Il est évident que le libéralisme se revendique de l'universel en premier. C'est une idéologie pour le monde. D'où le fait que dans les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme. Ce n'est pas les droits du citoyen français de 1792. Donc dès le départ, c'est annoncé. Et puis, donc on a dit le sujet, qui est ou quel est le sujet. Pourquoi je dis qui ou quel? Parce que dans le cas du libéralisme, c'est l'individu, l'humain qui est le sujet. Dans les autres idéologies, ce n'est pas l'humain ni l'individu qui est le sujet. On va le voir plus tardivement. Deuxième élément, c'est la question de l'universel ou du particulier. Le troisième élément, c'est quel est le sens de l'histoire. C'est-à-dire, est-ce que l'idéologie, telle idéologie qu'on va aborder, s'articule dans une logique de progrès, c'est-à-dire l'histoire est linéaire, on se dirige vers le progrès, et moi, idéologie X ou Y, je propose ma manière d'aller vers ce progrès, vers la fin de l'histoire, c'est-à-dire l'aboutissement de la rationalité, etc. Ou bien c'est une idéologie réactionnaire ou conservatrice qui ne voit pas son devenir devant dans le futur, mais qui voit son avenir dans le passé. Alors ça paraît paradoxal, avenir dans le passé. C'est-à-dire que l'avenir qu'on propose, c'est de réhabiliter le passé. Donc il y a de tout dans les idéologies, et c'est les trois questions fondamentales qui permettent rapidement de définir le cadre théorique d'une idéologie. Passons maintenant, toujours dans l'ordre chronologique, au marxisme. Alors, le marxisme est en quelque sorte l'antithèse du libéralisme. Il émerge en réaction au libéralisme et donc au capitalisme. Parce que derrière le libéralisme, il y a le capitalisme. On n'a pas eu le temps d'entrer dans les ruptures historiques au niveau politique, avec les révolutions politiques, l'émergence de la bourgeoisie, l'éclatement du système féodal, pour expliquer l'avènement du capitalisme. Mais autorisez-moi le fait d'affirmer que le libéralisme, c'est l'idéologie du capitalisme à l'état pur. Le communisme naît comme étant une réaction, comme étant une antithèse du libéralisme. C'est-à-dire que le libéralisme, en détruisant les corps collectifs, les corporations, les corps de métier, le système féodal qui permettait une forme d'échange symbolique entre dominants et dominés, etc., il a créé une masse d'individus qui n'ont plus de corps collectif pour les protéger. Parce que je rappelle que les corporations au Moyen-Âge, qui existaient même au Maroc, dans le Maroc juste avant le protectorat français, d'ailleurs vous le voyez, alors quand vous visitez la vieille médina de Fès ou de Marrakech, vous trouverez qu'il y a des quartiers qui portent le nom d'un métier. Le quartier des menuisiers, le quartier des tanneurs qui travaillent le cuir, le quartier, etc. Pourquoi ? Parce que dans le système médiéval ou prémoderne, il n'y a pas cette logique de concurrence, d'offre et de demande, etc. En fait, il y a une logique de solidarité au sein du métier. C'est-à-dire que les vendeurs d'olives, vous n'allez pas les trouver dans une distance optimale l'un de l'autre pour ne pas se marcher sur les pattes, mais ils vont être l'un à côté de l'autre. Et que, historiquement, quand par exemple, un vendeur d'olives n'a pas vendu aujourd'hui à aucun client, et ben, quand le client va aller vers le deuxième va l'envoyer vers le premier. Parce qu'il faut que tout le monde vende. On est dans une logique de solidarité de métier. Quand un menuisier, par exemple, qui fait partie de la corporation des menuisiers, meurt prématurément, sa femme récupère l'atelier avec ses enfants et aidée et soutenue comme étant la veuve d'un membre de la corporation. Donc c'était une forme de famille élargie, structurée non pas autour des liens de sang, mais autour d'un lien de métier. Alors parmi les premières décisions que vont prendre les libéraux après les révolutions politiques, notamment en France, ça va être de détruire et de supprimer les corporations. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est anticapitaliste, c'est rétrograde, c'est archaïque. Donc il faut détruire afin de créer des citoyens individuels que l'on peut par la suite récupérer dans nos manufactures, ce qui va devenir des usines par la suite. Et donc ils vont devenir des salariés qui n'ont plus de protection. Et donc la loi Le Chapelier, qui va être votée après la Révolution française, va interdire les corporations, les syndicats et toute structure collective de travailleurs. C'est-à-dire que les travailleurs ne peuvent pas s'organiser pour avoir des revendications ou demander quoi que ce soit. Et bien, naturellement, cette situation aboutit au fait qu'au XIXe siècle, l'espérance de vie moyenne d'un ouvrier anglais, là on est au XIXe, c'est-à-dire on n'est pas au Moyen-Âge, c'est pas très loin de notre époque aujourd'hui, l'espérance moyenne de vie d'un ouvrier était à peu près de 35 ans. C'est-à-dire les ouvriers ne vivaient pas en moyenne plus de 35 ans. Pourquoi ? Parce que les conditions de travail étaient pénibles, ils travaillaient 12 heures à 14 heures par jour, ils étaient payés par un salaire alimentaire, c'est-à-dire de quoi juste manger et ne pas crever de faim et revenir le lendemain travailler. La mortalité infantile était catastrophique au sein des familles ouvrières, ce qui fait que le terrain était favorable à l'émergence d'une idéologie capable de fédérer cette masse ouvrière pour l'aider à prendre conscience d'elle-même en tant que catégorie et se révolter contre l'ordre établi qui va être qualifié par le marxisme comme étant un ordre capitaliste d'exploitation de la classe ouvrière. Donc les ouvriers ne vont plus être une masse, mais vont être érigés par le marxisme en classe. Quelle est la différence entre les deux ? La masse, elle est amorphe, elle n'a pas de forme, elle n'a pas conscience d'elle-même, elle est bête, la masse, je dirais, elle n'est pas capable de prendre une décision. Par contre, une classe, elle est animée par une conscience de classe, c'est-à-dire qu'elle connaît sa condition, partagée par tous les membres de la classe. Elle connaît qui est l'ennemi. L'ennemi ne peut être qu'une autre classe, ça va être la classe des capitalistes. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle a un projet politique pour s'émanciper de la domination de la classe capitaliste. Et donc le marxisme va ériger la classe en sujet de l'histoire. Donc ce n'est plus l'individu comme dans le cadre du libéralisme, ça va être la classe. Donc il y a une classe ouvrière qui est dominée. Et il y a une classe dominante qui est la classe capitaliste, c'est-à-dire celle qui détient les moyens de production, celle qui détient le capital, c'est-à-dire le propriétaire, pour dire très simplement le propriétaire de l'usine, celui qui possède les machines, le bâtiment. Les travailleurs ne possèdent rien sinon leur force de travail calorifique ou biologique, c'est-à-dire qu'ils peuvent renouveler de manière alimentaire et revenir travailler le lendemain. Donc le sujet, c'est la classe. Maintenant, quel est l'horizon ? Est-ce qu'on est dans une démarche universelle ou particulière ? On est naturellement dans une démarche universelle. On n'est pas dans le particulier quand on parle du marxisme. Pourquoi ? Parce que la classe n'est pas une classe nationale chez Karl Marx, qui est le penseur, enfin, d'ailleurs ça porte son nom quand on parle de marxisme, mais c'est le maître à penser du communisme, même s'il va être contesté par certains réformistes au cœur même du communisme, mais il est le prophète du communisme. Eh bien, pour Karl Marx, la classe, il ne connaît pas les frontières. C'est-à-dire, moi, en tant qu'ouvrier, je dois me sentir solidaire avec tous les ouvriers du monde, avec un ouvrier au Mexique, aux États-Unis, au Japon, au Nigeria, au Gabon, en Afrique du Sud, au Maroc, parce que la classe, elle n'est pas fondée sur une logique géographique, sur une logique identitaire ou sur une logique religieuse, mais elle est fondée sur des conditions d'existence particulières. Elle est fondée à travers une lecture de rapports de force dans le cadre du mode de production capitaliste. D'où le fait que dans le manifeste du Parti communiste, il y a cette idée de ouvriers de tous les pays, unissez-vous, prolétaires, c'est-à-dire ceux qui travaillent, ceux qui ne possèdent que leurs mains pour travailler. Donc prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et l'ennemi est commun, c'est-à-dire que le capitaliste est mon ennemi, qu'il soit marocain, américain, anglais, nigérian, etc. Il est ennemi parce qu'il est capitaliste. Et donc il y a cette logique de fraternité transfrontalière qui fait que la révolution anticapitaliste proposée par le communisme ne peut être qu'une révolution planétaire. De même que le progressisme et l'évolution proposée par le libéralisme ne peut être que planétaire. Et donc on a deux idéologies qui sont l'une une thèse et l'autre une antithèse, qui vont s'affronter sur un champ de bataille idéologique et par la suite politique et militaire, etc., durant la guerre froide, à une échelle qui est planétaire au nom de l'universel. Alors, quelle est la destinée, c'est-à-dire quel est le devenir, là, c'est le troisième critère, proposé autant par le marxisme que par le libéralisme. Eh bien, les deux veulent aboutir, paradoxalement, à une fin de l'histoire qui est certes différente, mais en même temps proche. C'est-à-dire, ils veulent une fin de l'histoire. Alors, pour les libéraux, eh bien, une fois qu'on aura, notamment pour John Locke, une fois qu'on aura éduqué tous les peuples de la planète, qu'on aura démocratisé tous les régimes politiques, qu'on aura développé le commerce de libre-échange, parce que le commerce est central chez les libéraux. Le commerce n'est pas uniquement une pratique économique lucrative, mais il porte en lui même une dimension anthropologique, en partant d'idée que le commerce permet la paix. C'est qu'on ne peut avoir de paix durable que par le commerce. Parce qu'effectivement, les commerçants préfèrent la paix pour pouvoir échanger leurs marchandises, gagner de l'argent, et que toute guerre est source d'instabilité, de perte. Et donc si toute la société devient une société marchande, et bien globalement la guerre est évacuée. Donc les libéraux veulent une fin de l'histoire. Ce qu'on va retrouver notamment avec Francis Fukuyama, on en a déjà parlé, qui avait écrit un livre qui s'appelle « La fin de l'histoire » avant de se rétracter par la suite. Mais pour les libéraux, c'est une fin de l'histoire qui va être rendue possible par l'extension du commerce, une forme de pax mercata, de paix du commerce à l'échelle planétaire, de démocratie universelle. L'État va quasiment disparaître, on aura une société civile planétaire, d'où le fait que vous remarquez que les ONG, les organisations non gouvernementales, pareil, ne connaissent pas les frontières. Amnesty, elle s'appelle Amnesty International, elle ne s'appelle pas Amnesty Anglaise, même si le siège est à Londres. Pareil, Reporters sans frontières. Donc on est dans le libéralisme, c'est que la société civile ne peut pas être nationale. Et ne peut être que transnationale, internationale, ou même comme un dépassement de la nation même. C'est-à-dire que la nation est un frein à la société civile, et que, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec le discours dominant, on le voit avec l'écologie, hein, l'écologie ne connaît pas les frontières, et donc ça ne peut être qu'une démarche mondiale. On le voit avec la question. Enfin, toutes les questions aujourd'hui sont érigées en questions transfrontalières, parce que la frontière est vue comme rétrograde, comme quelque chose qui doit être dépassé, et l'État est davantage un boulet que l'entraîne par un héritage historique qu'un facteur de progrès. Et d'ailleurs, on tente de supplanter, de remplacer la politique et l'État par la gouvernance. Vous remarquez aujourd'hui, le terme gouvernance est infiniment plus fréquent que le terme politique. Quelque part, politique est devenu péjoratif. On parle de gouvernance dans les constitutions de quasiment tous les pays développés, on voit développement. On parle de bonne gouvernance ou de mauvaise gouvernance pour classer les États. Mais la politique, en tant que pratique, qui a une prééminence par rapport à toutes les autres dimensions politiques, etc., économiques, culturelles, a été évacuée au profit de la gouvernance. On ne parle plus d'idéologie, mais on parle de bonne pratique. On parle de moins en moins de lois et on parle de plus en plus de normes. Donc en fait, on est toujours dans cette démarche libérale. Alors je me suis un peu égaré par le libéralisme. Revenons rapidement au marxisme avant d'aborder le fascisme, parce que le temps nous est compté. Donc le marxisme, pareil, veut une fin de l'histoire. Seulement, elle n'est pas la même. Cette fin de l'histoire doit aboutir à la disparition de l'État, comme le libéralisme, mais également à la disparition de la propriété privée. C'est-à-dire la propriété privée qui est la source du mal, qui est l'origine de toutes les inégalités, de tous les types d'exploitation, doit être abolie. Et donc l'abolition de l'État, l'abolition de l'argent, l'abolition de la propriété privée et l'abolition des classes. Il n'y a plus de capitalistes et il n'y a plus de prolétaires. C'est-à-dire tous les biens deviennent des biens communs. D'accord. Et on ne produit pas pour de l'argent, pour une contrepartie de l'argent, mais on produit pour la communauté, d'où le fait que l'on parle de communisme. Alors de même que le libéralisme se revendique du bon ou du mauvais sauvage, c'est-à-dire une forme de mythe fondateur où on va imaginer un être préhistorique et essayer de déduire comment il était pour savoir comment il doit devenir, le communisme également se revendique de mythe fondateur. Et d'ailleurs, Rousseau, bien qu'il soit dans une certaine mesure l'un des pères fondateurs du libéralisme, malgré lui, a été également une source d'inspiration pour le marxisme. Donc le marxisme se revendique du bande sauvage. C'est que pour lui, avant l'invention de l'agriculture, l'apparition de l'État, il n'y avait pas de propriété privée. Ce qui est vrai, je veux dire que quand on voit les travaux des archéologues et des anthropologues, notamment chez les sociétés dites primitives, alors primitives, c'est-à-dire premières, c'est-à-dire les plus anciennes, on ne trouve pas de propriété privée, en tout cas telle qu'on la comprend aujourd'hui. Pour la simple raison, c'est que quand, imaginons, je suis un chasseur-cueilleur, j'habite dans une société de chasseurs-cueilleurs, je vais chasser le bison ou n'importe quel animal, j'ai pas de frigo, donc si je le tue, je ne peux pas le garder pour moi. De toute façon, il va pourrir, je n'aurai pas le temps de le manger. Donc, de fait, ce qui me paraîtra le plus naturel, c'est de le partager avec la communauté. Mais, vous me direz, si c'est toujours le même chasseur qui ramène le mammouth, les autres, c'est des paresseux, c'est des parasites. Alors là, on entre dans un schéma de dents et de contre-dents. C'est-à-dire que cette fois, j'ai chassé, je partage avec la communauté, mais en partant d'idée que demain, l'autre qui aujourd'hui n'a pas chassé et a mangé de mon mammouth, demain, c'est lui qui va chasser. Et donc, on est dans une logique qui a été très développée par Marcel Mauss, de dents et de contre-dents. C'est-à-dire une logique où le contrat est implicite. D'ailleurs, on le voit, je ne sais pas si je l'ai dit ici avant, même dans la société marocaine, et j'imagine dans quasiment toutes les sociétés du continent africain, mais je vais parler de la mienne que je connais, dans les quartiers avant qu'il y ait les immeubles et l'urbanisme totalement fou, et ben, quand on offrait au voisin ou à la voisine, c'est surtout une affaire de femme, un plateau avec des gâteaux, jamais le plateau n'était rendu vide. D'accord. À un moment, c'est un cadeau. Je lui ai donné un plateau avec des gâteaux. Donc, à la limite, il n'y a pas de problème si on me rend le plateau vide. Mais non. Non seulement on ne rend pas le plateau vide, mais le gâteau que l'on va donner comme un contre-temps doit valoir même plus cher que le gâteau qui a été offert en premier. Donc là, c'est une logique de dents et de contre-dents. Donc tout cela est propre à la société paléolithique, c'est-à-dire avant l'agriculture. Parce que l'agriculture, contrairement à la chasse et à la cueillette, permet le stock. On peut stocker des grains de blé dans des silos. D'accord. Et d'ailleurs, l'État est né avec l'agriculture. D'accord. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais je vais encore citer l'exemple du Maroc. Le mot qui culturellement désigne l'État au Maroc, ce n'est pas Daoula, c'est le Marzen. Et le Marzen veut dire là où on stocke. Là, on stocke initialement le blé, puis par la suite, d'autres denrées, l'or, etc. Donc, on trouve même dans la langue l'origine agricole de l'existence même de l'État. D'ailleurs, même polis, qui veut dire la cité, la ville chez les Grecs, vient de l'indo-européen pili, qui veut dire la colline surélevée où en général on mettait le grenier. Donc, dans toutes les cultures, vous trouvez cette origine agricole de l'État. Donc, que nous dit le communisme ? Il nous dit oui, l'apparition de la propriété privée avec l'agriculture, la délimitation des terres, les stocks qui doivent être protégés et puis qui par la suite vont être échangés, l'émergence du commerce, de la monnaie, tout cela a corrompu l'homme et l'a éloigné de sa nature de primitif, de sa nature première. Et bien entendu, les marxistes, comme ils sont des progressistes, ils ne croient pas que l'on puisse réhabiliter un mode de vie chasseur-cueilleur. Ils ne proposent pas de revenir à ce mode de vie-là, mais ils proposent d'utiliser une démarche qui est celle du progrès pour aboutir dans un contexte technologique, parce que c'est très technophile le marxisme également, à la réhabilitation de cette anthropologie du don et du contre-don, de la communauté, du partage, de la gratuité, du bien commun, etc. Et donc les deux proposent une fin de l'histoire, mais qui est diamétralement opposée. Le fascisme, qui vient en troisième. Le fascisme est né en Italie, donc vers les années 20, puis par la suite il s'est développé, a pris le pouvoir à partir de la fin des années 20, début des années 30, et il va disparaître en 45, comme tout le monde le sait, en tout cas en Italie et en Roumanie. Après, il va prospérer sous d'autres formes en Espagne, avec Franco, en Argentine, avec Perón, et dans d'autres pays en Amérique latine, même au Portugal, avec Salazar, la dictature militaire de Salazar, etc. Mais initialement, il est italien. Alors, que disent les fascistes ? Avec à leur tête Benito Mussolini, qui est le fondateur du fascisme, avec son livre qui s'appelle « La doctrine du fascisme ». Il dit « L'ennemi du peuple italien, c'est autant le libéralisme que le marxisme. Les deux se valent du point de vue de notre haine. Pourquoi ? Parce que les deux sont l'ennemi du peuple. Pourquoi ? Parce qu'il se revendique de l'universalisme. Le libéralisme, de détruire les frontières, de détruire les identités collectives au nom de l'individu, donc il veut supprimer tout ce qui fait de nous des Italiens. Et le marxisme veut faire la même chose, en partant de l'idée que les classes ne connaissent pas les frontières, et donc une forme de dilution de l'Italie dans une logique de classe prolétaire mondiale, de classe capitaliste mondiale. Et en plus, cette logique de classe prépare le terrain à une guerre civile entre Italiens, puisque l'Italien prolétaire va détester l'Italien bourgeois et vice-versa. Et donc les deux théories vont être renvoyées dos à dos, et le fascisme va proposer ce qu'on appelle une troisième voie. Donc dès que vous entendez la troisième voie, c'est par rapport à la première qui est le libéralisme et la deuxième qui est le marxisme. Et donc le fascisme va être dès le départ une idéologie de synthèse. Parce que bien qu'il s'est opposé à ces deux idéologies, il va quand même leur emprunter certains aspects. C'est que ce qu'il va prendre aux libéraux, ça va être quand même l'économie de marché, qu'il va garder. Je veux dire, en Italie, durant le règne du fascisme, il y avait la propriété privée. Il y avait des gens qui détenaient le capital, et il y avait des prolétaires, des salariés qui travaillaient. Mais la régulation du marché ne va pas se faire par le marché lui-même, comme pour les libéraux. Parce que pour les libéraux, le marché est intelligent. Il y a cette idée de la main invisible chez Adam Smith, qui est le père spirituel du libéralisme économique. Mais c'est l'État qui va, l'État stratège, l'État paternaliste, qui va orienter, structurer et dicter à l'économie de marché comment il doit se comporter, qu'est-ce qu'elle doit produire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas produire. Donc ça va être une forme d'économie de marché administrée par l'État. Mais il y a quand même une économie de marché, on garde la propriété privée. Deuxième élément qu'il va emprunter au marxisme, ça va être la dimension de la justice sociale. C'est-à-dire que l'ouvrier est ouvrier, on ne va pas l'ériger en capitaliste ou autre chose, mais ce n'est pas une raison pour qu'il soit exploité. Et donc il faut un juste salaire, il faut des jours de congé, il faut qu'il ait des droits. D'ailleurs, beaucoup d'idées qui vont être après récupérées par le monde capitaliste, comme la question des retraites, une date limite à partir de laquelle on part à la retraite, la question des congés payés, ça va provenir du fascisme. C'est que le fascisme va emprunter au socialisme ou au communisme une certaine dimension de l'équité et de la justice sociale qu'il va combiner avec l'économie de marché, mais administrée par l'État. Et ça va donner une synthèse très particulière qui, contrairement aux deux autres théories, ne va pas se revendiquer de l'universel, mais va se revendiquer uniquement du national. Le fascisme n'a pas pour vocation de devenir planétaire, il a pour vocation d'être italien. C'est une idéologie italienne pour les Italiens. Après, si d'autres pays veulent volontairement adopter ce mode, cette théorie politique, pourquoi pas ? Mais on ne va pas chercher à l'exporter, comme l'ont fait les libéraux ou les communistes avec la révolution planétaire, etc. Donc effectivement, ça s'est diffusé vers certains pays, mais c'est une idéologie qui ne se revendique pas du tout de l'universel. Alors, le fascisme part de l'idée, alors il faut poser la question du sujet. Pour les libéraux, c'est l'individu, pour les marxistes, c'est la classe, prolétariat, capitaliste dans le contexte moderne. Avant, dans le contexte médiéval, c'était la noblesse et les serfs et les paysans. Dans le contexte antique, c'était les citoyens libres et les esclaves. Il y a une dialectique de l'histoire qui fait que la nature des classes change, mais c'est toujours un rapport de dominant-dominé. Alors pour les fascistes, le sujet de l'histoire, c'est le peuple. Ce n'est ni l'individu ni la classe, c'est le peuple. Et le peuple a conscience de lui-même. Et cette conscience qu'a le peuple de lui-même se matérialise à travers l'État. Et donc l'État, c'est un peu la strate consciente du peuple. Donc l'État, c'est le mode d'expression politique du peuple. C'est-à-dire que le peuple ne va pas décider directement par un schéma de démocratie directe ou parlementaire, etc. Mais c'est l'État, en tant qu'incarnation de la conscience du peuple, qui va exprimer la volonté du peuple. Et l'État lui-même, dans une démarche prophétique, va s'incarner dans la figure du guide, en italien le duce, qui veut dire le conducteur, celui qui conduit le char, qui sait dans quelle direction il faut aller, et qui porte le peuple derrière lui. D'où le fait que Benito Mussolini avait le titre de duc, enfin ça vient de duc à l'origine, de duce, c'est-à-dire le guide. Ce que Hitler va récupérer, en allemand ça va donner le Führer. Le Führer veut dire le guide, celui qui montre la voie. Alors maintenant, il est important de parler des deux déclinaisons, au moins, le plus important historiquement, du fascisme. Le fascisme italien dont j'ai parlé, qui est fondé sur le peuple, aucunement sur la race. Dans le fascisme premier, celui de Mussolini, il n'y a rien qui renvoie à une dimension raciale. Il n'y a même rien qui renvoie à une dimension religieuse. Il y avait beaucoup de juifs qui étaient sympathisants du fascisme italien. La maîtresse de Mussolini, qui l'a aidé à écrire le premier manifeste du parti fasciste, était elle-même juive. Donc il n'y avait pas cette problématique de race ou de religion, etc. C'était la question du peuple. Et en Italie, le peuple, ce n'est pas une question de race, c'est une question de langue, de culture et de territoire. Pourquoi le fascisme, d'ailleurs, est apparu en Italie et pas ailleurs, en tout cas en premier ? C'est parce qu'il est la réponse politique à des contradictions internes propres à l'Italie. Je rappelle que l'Italie est un pays très récent. Et là, un siècle et demi à peu près. Et à l'époque, elle avait à peine 70 ans, ou un peu moins. L'Italie, durant toute son histoire, depuis l'effondrement de l'Empire romain, a été constituée de plusieurs états-cités indépendants. C'est-à-dire de plusieurs petits états indépendants. Il y avait la République de Florence, il y avait le duché de Milan, il y avait le royaume de Gênes, la République, le royaume de Gênes, il y avait le royaume de Naples. Donc il y avait une pluralité, il y avait la République de Pise. Donc chaque ville était un état. Et ils se faisaient la guerre en permanence entre eux. Et puis il y avait le Rome qui était contrôlé par le pape, par l'état papal. Pas le Vatican comme on le comprend aujourd'hui, mais il y avait un état papal dont le monarque était le pape, qui avait son armée, etc. Donc c'était des cités qui faisaient la guerre en permanence. Et la réunification de l'Italie, il y a eu différentes tentatives de réunification, dont celle de Cesare Borgia, que vous pouvez voir dans la série ou lire, si vous voulez, dans les biographies du personnage. Mais la dernière, ça a été celle de Garibaldi, c'est-à-dire on est au XIXe siècle. L'Italie va être réunifiée, mais ce n'est pas parce qu'elle a été réunifiée politiquement que ça veut dire qu'elle est cohérente à tous les niveaux. Les contradictions vont se situer déjà au niveau des gaps ou des différences de développement économique. C'est qu'on avait un nord industrialisé, capitaliste, plutôt avec un tempérament libéral, ça va être Milan, Turin, là où même aujourd'hui on a l'essentiel de l'industrie italienne, de pointe, de l'automobile, la mode, etc. On a un sud quasiment médiéval, je veux dire, où l'État est totalement absent, historiquement, jusqu'à ce que la mafia soit plus ou moins recadrée, même si elle existe encore, la mafia. La mafia vient de familia. Quand la famille est puissante, c'est que l'État ne l'est pas. Quand il y a un déficit d'État, un manque d'État sur un territoire, ben on le compense par la famille. Mais c'est quoi la mafia, sinon une famille élargie, c'est-à-dire une logique de don et de contre-don, de protection, de solidarité, de réseautage par les liens de sang, d'allégeance, d'adoption. La mafia adopte des gens. Et d'ailleurs, on ne peut pas quitter la mafia, de même qu'on ne peut pas quitter une famille. Et donc, le sud de l'Italie était agraire, sous-développé du point de vue capitalistique, et n'avait strictement rien à voir avec le nord. Et en plus, il y avait différentes langues italiennes. C'est-à-dire, le napolitain ou le sicilien n'est pas forcément l'italien du nord. Et donc, il fallait trouver une cohérence à cette Italie contradictoire. Une Italie contradictoire, une Italie agraire du sud, majoritairement peuplée de paysans, d'accord ? Qui ne peuvent pas adopter l'idéologie libérale ou moderniste, etc. Le Nord, qui est capitaliste industrialisé, et un centre, la Toscane d'Émilie-Romagne, qui est à mi-chemin entre les deux. Et donc, dans le fascisme, on va trouver des éléments qui vont être à même d'intégrer toutes ces composantes de l'Italie. Donc, le Nord industrialisé, le fascisme lui dit « Calme-toi, on va garder la propriété privée, on va garder la possibilité d'être détenteur d'un capital productif. Juste l'État va de temps en temps vous dire quoi produire, pas produire. » Le sud agraire, le fascisme va lui dire « Écoutez, nous ne sommes pas des libéraux progressistes, nous sommes pour les valeurs de la famille, les valeurs de l'autorité, de la verticalité, ce qui est très bien entendu et accueilli par les populations rurales et paysannes du sud et du centre de l'Italie. » Et donc globalement, le fascisme va être cette idéologie de synthèse qui va répondre à toutes les spécificités des différents modes de vie et des différents niveaux de développement de l'Italie de l'époque. Mais il avait quand même une dimension progressiste qui ne va pas prendre une forme sociétale, il n'y avait pas LGBT chez le fascisme italien, mais qui va prendre une forme de par rapport au travail, une forme de justice sociale par rapport au travail. Mais il y aura toujours une centralité des valeurs de la famille, du père, etc., de la verticalité du pouvoir. Le nazisme s'est inspiré du fascisme italien, puisque Hitler était admiratif de la prise du pouvoir à Rome par Mussolini, la marche, on appelle la marche sur Rome, et il va tenter de reproduire une forme d'idéologie similaire, mais adaptée à la réalité allemande. C'est-à-dire que contrairement à l'Italie, où le fascisme est fondé sur le peuple et sur le territoire, dans le cas allemand, le fascisme allemand, si on peut dire, va être fondé sur la race. C'est-à-dire que le critère sur lequel va être fondée cette théorie politique n'est pas un critère territorial, n'est pas un critère historique, mais c'est un critère intégralement racial, avec une logique de hiérarchie des races, avec une supériorité de la race dite aryenne, pure, propre, etc., et toujours avec un mythe fondateur. C'est que la volonté de purifier, entre guillemets, la race allemande, c'est une volonté de retrouver la pureté originelle des premiers Germains, avant qu'ils ne se soient métissés avec d'autres peuples, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils vont prendre du fascisme? Ils vont prendre la haine de la démocratie parlementaire, parce que les fascistes italiens détestaient la démocratie parlementaire, parce qu'ils détestaient la bourgeoisie. Parce qu'ils partaient de l'idée, peut-être qu'ils n'avaient pas forcément tort, c'est que la démocratie parlementaire, c'est le pouvoir des bourgeois. C'est le pouvoir de la bourgeoisie, parce que la bourgeoisie a l'argent, elle a les médias, donc elle a la capacité de toujours placer le candidat qui va défendre ses intérêts par le jeu de la démocratie et du vote. Et donc la haine de la bourgeoisie va amener les fascistes italiens et les nazis allemands à avoir une haine de la démocratie parlementaire, représentative, etc. Donc les nazis vont reprendre cette verticalité, mais il est important de noter que les fascistes italiens se revendiquent de la démocratie, mais d'une manière très particulière. Ils se définissent comme étant une démocratie qualitative, en opposition avec la démocratie quantitative, qui est celle du libéralisme. Parce que pour les libéraux, c'est le one man, one vote, et à la fin, le pouvoir va être obtenu par celui qui a obtenu le plus de votes. C'est le célèbre 50 plus 1. 50 plus 1 plus une voix. Et donc, c'est la quantité qui va devenir la source de légitimité du pouvoir. Or, depuis quand la quantité est-elle source de vérité ou de pertinence, etc. Par contre, pour les fascistes italiens, nous, on récuse cette idée vulgaire et bourgeoise de la quantité, qui est celle de l'amassement de l'argent, mais également des votes, ce qui revient au même pour les fascistes. Mais nous incarnons, à travers la figure du duce et de l'État, la volonté du peuple du point de vue qualitatif, et pas du point de vue quantitatif. Et donc, il y a cette idée de l'abolition du pluralisme politique, que les nazis vont récupérer du fascisme italien, donc il n'y a pas d'opposition de tel parti ou tel parti, un État, un parti. Et le parti qui est au pouvoir, le parti fasciste, et donc c'est l'État en même temps. Donc le parti national socialiste, que l'on contracte en disant nazi, va également récupérer cette idée d'abolition du pluralisme politique, puisque effectivement le peuple est un, et donc il doit être représenté par un seul parti, par un seul courant politique et par une seule idéologie, et que le parlementarisme divise le peuple davantage qu'il ne permet au peuple de s'unifier, et qu'il prépare le terrain et éventuellement à une guerre civile et à une dialectique ami-ennemi à l'intérieur du même peuple. Souvenez-vous de Carl Schmitt, ce qui est récusé par ce qui est honni et détesté par les nazis et par les fascistes, qui veulent un peuple harmonieux, uni et dirigé par un seul chef, naturellement dans cette perspective-là. Autre dimension partagée entre les deux, ça va être la dimension de synthèse. C'est que le nazisme, comme j'ai dit, s'appelle le national-socialisme. C'est-à-dire que bien que Hitler et le parti nazi détestaient les communistes et détestaient les libéraux, il va quand même récupérer la dimension du socialisme, c'est-à-dire de la réhabilitation du travail manuel comme étant une tâche noble et respectable, la dimension de l'équité sociale, la dimension du pouvoir d'achat, du congé payé, des droits des travailleurs. Donc seul l'État et le parti nazi peuvent être le garant de cette équité dans le discours de l'époque, mais il va quand même garder, comme le fascisme italien, la propriété privée, les capitalistes qui détiennent les moyens de production. C'est juste que les ouvriers vont être réhabilités et avoir une dignité et des moyens de vie supérieurs à ceux des travailleurs dans le contexte libéral. Mais la dimension fondamentale, c'est la dimension raciale, qui va dans un premier temps opposer les fascistes italiens aux nazis allemands. D'ailleurs, Mussolini détestait Hitler. C'est-à-dire, il considère qu'il était vulgaire, que c'était une boule de nerfs instable et incontrôlable. Il n'y avait pas au début, il n'y avait aucune volonté de Mussolini de s'allier avec l'Allemagne nazie. D'ailleurs, Mussolini a entamé plusieurs tentatives diplomatiques pour s'allier avec les Anglais et les Français, avant la Deuxième Guerre mondiale, je parle des années 30, contre l'Allemagne où les nazis avaient pris le pouvoir. Pour la simple raison que Mussolini, en ayant gardé le mode de production capitaliste, bien qu'en l'administrant, voulait une forme de partage colonial pour fonder un petit empire colonial pour l'Italie. Et que le seul moyen d'y parvenir est d'obtenir l'accord et l'aval de la puissance dominante de l'époque, qui était l'Empire britannique, et dans un second temps, de l'Empire colonial français. Or, il se trouve que les Français et les Anglais ont refusé à l'Italie le droit d'avoir un empire colonial, ce qui a amené l'Italie à le faire quand même, en occupant le territoire qui s'appelle aujourd'hui la Libye. La Libye a été dominée par l'Italie, et il y avait une tentative de conquérir l'Éthiopie, qui s'est soldée par un échec militaire, disant que l'armée italienne n'est pas forcément connue pour ses valeurs guerrières. Mais voilà, donc ce refus de la part des Anglais et des Français va pousser Mussolini dans les bras d'Hitler. Ce qui va amener dans un premier temps à une alliance entre les deux, et quand la guerre va commencer, eh ben, naturellement il y aura une alliance de fait. Et les pressions allemandes sur Mussolini, en s'appuyant notamment sur certains membres éminents du parti fasciste italien qui étaient fondamentalement antisémites, il y avait certains membres antisémites, mais pas tout le parti fasciste, eh bien, ça va amener Mussolini, finalement, à accepter de livrer à l'Allemagne les Juifs étrangers, dans un premier temps, qui résidaient en Italie, puis par la suite, commencer à livrer les Juifs italiens eux-mêmes, qu'il ne voulait pas livrer, mais qu'il a dû livrer. Il y a eu un deuxième temps dans l'histoire de l'État fasciste, c'est à partir de 1943, quand une partie des Italiens va se révolter du fait des dégâts de la guerre et de l'effondrement du niveau de vie contre le pouvoir fasciste, qui va mener à une radicalisation du pouvoir fasciste qui va devenir ultra-autoritaire contre les Italiens eux-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle la République de Malo, puisque les fascistes vont quitter Rome et refonder une forme de république, mais qui va s'écrouler en 1945 avec la mise à mort de Mussolini. Alors pour revenir maintenant à l'époque contemporaine. Donc déjà aujourd'hui, quand on traite, je sais pas, un Marocain ou un Sud-Africain de fasciste, déjà, gardez en tête que c'est totalement faux. Pour être fasciste, il faut déjà être italien et être un italien des années 20, des années 30. Sinon, c'est totalement anachronique comme qualificatif. On peut dire de quelqu'un qu'il est totalitaire, qu'il est pour un régime dictatorial, mais pas fasciste. Fasciste, d'ailleurs, vient du mot fascio. Fascio, c'est le faisceau. Parce qu'à l'époque de l'Empire romain, de la République romaine, les juges, enfin, les gens qui étaient censés exécuter la décision du juge, les huissiers, ou je ne sais pas comment les appeler aujourd'hui, et bien quand ils allaient, par exemple, pour confisquer un bien ou pour arrêter le coupable, ils portaient un bâton, une forme de bâton, qui était la convergence de plusieurs cordes. Ce bâton s'appelait le faisceau. Et donc, il symbolisait l'autorité de la République romaine. C'est-à-dire l'autorité, le droit, la justice, la légitimité, tout cela était symbolisé par le faisceau. Et comme il est la convergence de plusieurs cordes, de plusieurs éléments, il peut incarner également l'idée du peuple, qui, bien qu'il soit multiple dans ses composantes, converge vers une même structure unie. D'où le fait que même le nom est latin et italien. De même, aujourd'hui, quand on dit néo-marxisme ou marxisme culturel dans le cas des États-Unis, c'est pas tout à fait juste. C'est que si le marxisme, initialement, part de l'idée d'une dialectique de lutte des classes, aujourd'hui, ceux que l'on qualifie de marxisme culturel ne partent pas d'une dialectique de lutte des classes, mais d'une dialectique de lutte entre minorité et majorité, entre centre et périphérie, comme on voit avec l'idéologie, avec le mouvement woke aux États-Unis et dans le monde anglophone. Donc aujourd'hui, on a, pour bien le comprendre, comme j'ai situé les trois idéologies dans le contexte de la modernité, aujourd'hui, le monde occidental n'est plus dans la modernité. Le monde occidental n'est plus moderne. Il est post-moderne, j'en avais déjà parlé. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus parler de libéralisme. Et on ne doit pas parler de néo ou d'ultralibéralisme. On doit parler de post-libéralisme. De même, il ne faut pas parler de néo-marxisme. Il faut parler de post-marxisme. Et de même, il faut parler de post-fascisme. Alors, rapidement, et après je termine, que veut dire la postmodernité? La postmodernité, c'est la phase terminale de la modernité, où après avoir déconstruit toute la tradition, elle commence à se déconstruire elle-même, ses propres fondements. Et il devient de plus en plus superficiel. C'est-à-dire plus elle dévore sa propre substance, puis elle devient une forme de superficie, d'épiderme, dénuée de profondeur. Quand on voit les mouvements aujourd'hui dits néofascistes, par exemple les mouvements identitaires, populistes, qui sont très contemporains, on les a vus à partir de la crise de 2008, prendre le pouvoir un peu partout en Europe. C'est quoi? Est-ce que dans leur discours, vous percevez ne serait-ce que l'odeur d'une idéologie? Est-ce qu'ils ont des textes fondateurs? Est-ce qu'ils ont des intellectuels? Non. Ils ont un fétichisme identitaire. L'identité française, c'est la baguette, le salami, je ne sais pas, le vin. C'est ça, l'identité française. Et donc, on va lutter pour restaurer l'identité française à travers des fétiches, c'est-à-dire à travers des artefacts, des objets. Donc il n'y a pas de substance idéologique. Il n'y a pas de profondeur intellectuelle comme dans le contexte de la modernité où il y a l'intellect, la raison, la rationalité. Parce que les trois idéologies dont on a parlé depuis le début se revendiquent de la rationalité. Or, aujourd'hui, on est dans l'émotionnel, dans le populisme. Pareil, quand on parle du néo-marxisme, avec le mouvement woke, avec le LGBTisme, avec les théories du genre, on n'est pas dans la rationalité. On est dans la subjectivité la plus totale, puisque l'identité ne va pas se fonder sur le pôle biologique comme dans le contexte de la modernité, mais sur le ressenti de la personne. Si une femme se sent homme, elle peut se définir comme homme. Si un homme se sent intérieurement comme femme, il peut... Donc on est dans l'irrationalité qui est le propre de la postmodernité. On est dans cette fluidité, dans cette liquidité où tout est possible, en même temps tout est impossible. Et pareil pour le libéralisme, on n'est plus dans le libéralisme, on est dans le post-libéralisme. Parce que jamais... La société libérale n'a été autant autoritaire et coercitive qu'elle n'a jamais été autant antilibérale qu'elle ne l'est aujourd'hui. On l'a vu avec la parenthèse Covid, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, on l'a vu avec la dimension médiatique. Je rappelle que c'est la société libérale qui, au nom de la liberté, de la rationalité et des droits des citoyens, a arrêté Julian Assange, qui est en train de croupir en prison. C'est cette même société libérale qui, au nom des droits de l'homme, fait que Edward Snowden, qui n'est ni plus ni moins qu'un lanceur d'alerte qui a dénoncé le fait que les renseignements américains avaient mis sur écoute quasiment tous les citoyens américains et même des chefs d'État étrangers, se retrouve à demander l'asile et à être exilé en Russie aujourd'hui. Donc on est dans le post-libéralisme. C'est-à-dire que dans le discours, on est libéraux, mais dans le fond, on est dans une logique de synthèse fluide, liquide, qui se déplace au gré des conjonctures, des contextes, des rapports de force, etc. Et donc, vous me direz, alors, quelle est l'alternative? Alors, si le libéralisme n'est plus libéralisme, si le communisme n'est plus communisme, le fascisme n'est plus fascisme, donc il faut une quatrième théorie politique, puisque même la troisième voie a échoué. Oui, mais elle n'existe pas. J'ai pas de réponse à vous donner. Il y a différentes pistes, il y a des intellectuels qui travaillent sur une quatrième voie, mais c'est des tâtonnements. Parce que les idéologies, c'est pas l'affaire de personne. C'est-à-dire Karl Marx, oui, il a écrit Le Capital, une pluralité d'autres ouvrages, mais ça n'a été possible d'être écrite à cette époque-là, cette œuvre-là, que parce que le contexte, l'air du temps, rendait possible l'émergence d'une telle œuvre. Parce qu'il y avait un contexte social, politique, économique, historique, idéologique, il y avait l'anarchisme, il y avait le Proudhon, il y avait un ensemble d'œuvres qui, à l'époque, ont culminé et se sont incarnées à travers la figure de Karl Marx, c'est l'œuvre de Karl Marx. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un individu à qui on va demander de nous pondre une quatrième théorie politique, mais c'est l'histoire qui va faire émerger une quatrième théorie politique comme dépassement du libéralisme qui aujourd'hui est hégémonique, en tout cas dans sa forme formelle, enfin dans sa dimension formelle. Parce que réellement, le libéralisme aujourd'hui n'existe nulle part. Il y a des degrés de libéralisme, il n'y a pas de société intégralement libérale. Je vous remercie, et donc à travers les questions-réponses, on pourra approfondir certains points.